Europe 1, 15h-16h,
Samedi en France.
William Lémergie.
Bienvenue à Samedi en France, bonjour à tous. Une fois encore, nous allons vous proposer de visiter des sites en France dont on ne vous parle pas assez. En tout cas, c'est notre point de vue et on va vous dire pourquoi on a raison sur ce plan-là. Dans un instant, une église près de Montbéliard, mais celle-là, s'il vous plaît, a des vitraux signés Fernand Léger. Et il n'y en a pas qu'un. Tout de suite après, un site du savoir-faire dans le Puy-de-Dôme où l'on peint sur de la roche issue des volcans. Pour faire quoi? Vous allez voir. Et puis après ça, une balade exceptionnelle. Alors là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous êtes très très haut et ça va très très vite. Nous serons au-dessus de la vallée du Mercantour, suspendue à la plus grande tyrolienne de France. Alors tout ça se visite bien sûr. On commence par un site insolite, tout de suite. Il y en a très peu comme celui-là. C'est l'une des plus grandes volières d'Europe, mais ce n'est pas que ça. Et Gavin Clémenté-Ruiz, dénicheur de sites, nous sert de guide. Alors, nous allons où exactement?
Bonjour William, bonjour à
bonjour
tous.
Bonjour jeune
homme. Cet après-midi, on vous emmène à 30 km de Paris. Alors, on sera en Seine-et-Marne, c'est très précisément à Crécy-la-Chapelle. Et c'est là que se situe Perrot World.
What is the sense of Perrot World? En français, alors attendez, si mes souvenirs d'anglais scolaires sont bons, ça veut dire le monde des perroquets, c'est ça à peu près?
Yes, very good, Guillaume. Oh non, en fait, on devrait dire El Mundo de los Loros.
Pourquoi?
Parce que ce parc animalier, ben, en fait, c'est un refuge pour des espèces en voie de disparition qui abritent une reconstitution des paysages d'Amérique du Sud.
Ah, voilà.
C'est ça, c'est pour ça. El Mundo de los Loros.
Oui, j'ai compris.
Pardon. Là-bas, c'est. Il y a des espèces exotiques, mais il y a aussi, par exemple, un jaguar, il y a des loutres géantes, il y a des manchots de Humboldt, ça, je les aime beaucoup.
Des manchots?
Des manchots, ouais, ils se promènent comme ça au bord, j'aime beaucoup. Il y a des, et surtout, il y a des centaines de perroquets qui volent comme ça haut. Alors, soit très haut. Alors c'est une volière, hein, donc
j'ai les photos, mais c'est une volière, c'est immense, avec des grands grillages ou un filet.
C'est
hein,
ça, c'est une espèce de grand filet. Alors on n'a pas la sensation d'être étouffé du tout. Hein. Vous êtes vraiment à l'air libre, et c'est vraiment très impressionnant d'avoir toutes ces bêtes qui sont autour de vous. Alors c'est gentil, il y a pas de souci, faut pas s'exciter non plus, mais ils sont vraiment très aimables et ils vous regardent.
Une volière, mais c'est pas qu'une volière.
Alors non, c'est ça. C'est le propriétaire. En fait, il a voulu créer sur cet espace. Ça fait quand même un hectare. Hein.
Ah oui.
Une espèce de, j'ai envie de dire, de sensibilisation pour un lieu pour sensibiliser les visiteurs. Il y a plus de 100 000 visiteurs qui sont passés l'année dernière dans l'endroit pour les concerner pour à la fragilité de la nature de cette région du globe, tout en offrant.
Mais cette région, vous voulez dire l'Amérique du Sud. Ah oui, d'accord.
Exactement. Qui est dans un cadre qui est vraiment assez magique. C'est vraiment très beau. On se croirait dans un film d'aventure. On a l'impression d'être au milieu de la jungle. Il y a un 4x4 qui est posé comme ça au bord, qui attend. Et puis on part. Il y a un petit bar. On dirait le bar des chercheurs dans le coin. J'aime beaucoup le cadre.
Il y a un petit
cadre.
Côté Indiana Jones.
Exactement.
Il y a Harrison Ford qui passe par là.
Exactement. Et puis on peut dormir sur place.
Ah.
C'est ça qui est encore plus sympa, j'ai envie de dire. Vous pouvez prolonger le plaisir. Vous êtes dans des lodges tout en bois. Vous êtes en hauteur. Hein. Vous êtes dans la volière. Vous êtes dans la volière. C'est ça qui est génial. Et vous pouvez avoir les perroquets qui viennent vous voir sur
alors,
votre
ils
balcon.
Alors, ils sont de l'autre côté d'une vitre.
Alors, vous êtes dans le lodge. Ça dépend de quel lodge. Si vous allez dans le lodge des jaguars, vous ne pouvez pas ouvrir les vitres. Hein. Je tiens à vous, mon cher William. Et, par contre, si vous êtes dans le lodge des perroquets, bah, vous pouvez ouvrir votre fenêtre, porte-fenêtre, et vous êtes sur le petit balcon, vous pouvez regarder, ils viennent parfois même jouer à côté de vous, il y a un vautour qui peut passer. Dans ces cas-là, vous rentrez très vite dans votre
alors,
lodge.
Ça mérite des précisions, tout ça. Nous sommes en ligne avec le propriétaire des lieux. Bonjour Éric Vigneault.
Oui, bonjour à tous, bonjour William.
Alors, comment vous est venue l'idée de construire cette volière géante-là?
Alors, en réalité, cette volière géante a été construite pour accueillir des perroquets qui sont nés en Europe et qui sont en grande difficulté. Donc c'est un genre de méga refuge pour perroquets.
Ah, d'accord.
Et pour aller au bout de mon raisonnement, j'ai souhaité créer un espace proche de leur espace naturel. Alors, c'est pour ça que nous avons reproduit un espace comme l'Amérique du Sud, mais également avec des animaux endémiques. C'est pour ça que vous avez entendu qu'il y avait également des jaguars.
Oui.
Des capybaras, des loutres géantes, etc. Donc
mais
c'est pour,
à l'origine, c'était votre métier, vous travailliez dans ce monde animal ou pas du tout?
Non, pas du tout. Avant, j'étais dans le milieu médical, j'étais le plus gros fabricant français de gel hydroalcoolique. Et j'avais un institut de recherche en virologie.
Ah, quelle bonne idée de fabriquer du gel hydroalcoolique. Vous avez anticipé.
Voilà, j'ai anticipé. J'ai tout revendu à un groupe américain. Et donc, je me suis lancé dans la protection des perroquets via une fondation.
Ah, ça.
Et donc, cette fondation finance des projets en Amérique du Sud, en Afrique.
Ouais.
Mais je me suis rendu compte rapidement que beaucoup de perroquets étaient en difficulté en France, en Europe. Mmh. Il y en avait beaucoup dans les refuges, comme ça vit jusqu'à 100 ans pour des haras. Donc il y avait énormément de ces animaux qui étaient également en difficulté en Europe. Donc j'ai eu l'idée de créer cette volière pour leur donner un espace de liberté.
Mais vous les soignez aussi si nécessaire. Quand vous dites qu'ils sont en difficulté, pourquoi notre situation, l'Europe, ça leur convient pas ou pas assez ou peu?
Non, quand je dis en difficulté, c'est-à-dire que comme un perroquet vit très longtemps,
oui,
entre 50 et 100 ans, si vous achetez un perroquet, bah, il va vous survivre. Et il y a beaucoup d'abandonnés. Il y a beaucoup de refuges en Europe. Donc, c'est pour leur donner un bel espace. Et également, on a beaucoup de particuliers qui nous les confient parce qu'au bout de quelques années, ça crie, ça fait des fientes, c'est ingérable.
Oui. C'est un perroquet,
voilà,
quoi.
Parce que c'est... Oui, parce que ce n'est pas un animal de compagnie, c'est un animal qu'on essaie d'apprivoiser, quoi.
D'accord. On me dit aussi que vous organisez des animations soigneurs d'un jour. Alors, ça consiste en quoi, ça?
Voilà, alors ça consiste à ce que vous êtes un après-midi complet avec un soigneur et vous faites tout le travail du soigneur et vous êtes dans les enclos avec les animaux et c'est une expérience inoubliable puisque j'ai vu des enfants faire des caresses au capybara, vous savez, c'est le plus gros rongeur du monde qui fait jusqu'à 60 kilos, ils sont dans l'enclos des guanacos.
Là, vous me parlez de gens que je ne connais pas.
Hein. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est que j'ai voulu quelque chose de très pédagogique.
Oui,
très
bien.
Quand vous ressortez, de Parrot World, vous avez appris plein de trucs. Quoi.
Bah,
vous savez ce que c'est qu'un manchot par rapport à un pingouin, vous savez ce que c'est qu'un
jaguar
noir.
Donc, c'est... Oui, c'est un lieu familial, si j'ai bien suivi. Moi, j'aime bien aussi le côté qu'on n'est pas obligé d'aller loin pour dormir, parce qu'il y a les lodges et les animaux viennent autour, mais c'est pas dangereux.
Non, c'est pas dangereux, mais un perroquet n'est pas dangereux. On a des vautours aussi, ce sont des petits vautours d'Amérique du Sud. Bon, ils sont sur votre balcon, et puis si vous allez sur le balcon, ils s'envolent.
Oui,
à part quelques perroquets particuliers qui restent, et puis qui essayent de communiquer avec vous. Mais ce n'est pas du tout dangereux.
Bon, et c'est quoi les fêtes d'Amérique du Sud? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde danse avec des plumes sur la tête, comme du temps des Aztèques?
Voilà, c'est ça.
Non, j'ai dit ça un peu au hasard, moi.
Ah non, mais vous avez raison, parce que vous avez très bien compris le principe, c'est familial. Et il y a des fêtes, la fête des morts mexicaines, là, maintenant.
Il y aura avec les masques.
Norio, avec des masques.
Ah oui, j'ai vu ça, oui.
Nous avons des ateliers de maquillage pour les enfants. C'est gratuit pour les enfants lorsqu'ils viennent déguisés. Donc, c'est-à-dire que j'ai voulu un lieu de bonheur pour les perroquets et les autres animaux, mais également un lieu de bonheur pour les visiteurs,
grâce à
un environnement très esthétique et puis des animations ludiques.
Eh bien, bravo, M. Vigneault. Bravo, Eric. Vous avez réussi votre reconversion. Merci encore pour le gel hydroalcoolisé, quand même.
Merci, William.
C'est très spectaculaire ce que vous avez fait. Ce n'est pas qu'un parc d'attractions, c'est un parc animalier. Quand on y va, j'ai plein de photos, là, on sent qu'on est en immersion, en quelque sorte, hein. C'est ça.
Ah oui, nous sommes un genre d'ambassade de l'Amazonie, en Seine-et-Marne.
Merci, Votre Excellence. Alors, à bientôt et bon après-midi.
Oui, merci. Oui,
au revoir. Alors, Gavis, le parc, ça ouvre, comment on y va? C'est pas très loin de Paris, quoi.
Oui, Parrot World, ça rouvre le 19 février, donc c'est tout proche, là, on va pouvoir y aller. C'est de 10h à 17h, et progressivement, les horaires vont s'allonger avec la saison jusqu'à 19h30 en été. Alors, pour une journée sur place, par adulte, c'est 18 euros. C'est un peu moins cher si vous réservez directement sur Internet. Je mets toutes les infos sur europe1.fr, bien sûr. Et pour les enfants, c'est 14 euros. Et si vous voulez, comme on l'a dit, être soigneur d'un jour,
oui,
avec un des vétérinaires du parc, et ben vous faudra compter 110 euros par enfant de 8 à 14 ans et 180 euros pour un adulte.
Oui, parce que là, y a cette immersion, elle dure un moment.
Ah
quoi.
Ouais, ça dure un certain moment.
C'est qui justifie le prix. Quoi.
Et ce qui est sympa, c'est que vous êtes tout seul dans le parc à ce moment-là. C'est que vraiment, vous êtes avec les bêtes. Vous pouvez rentrer dans l'enclos et on vous protège, donc il n'y a pas de souci. Mais les grosses bestioles, là, c'est assez rigolo d'aller les voir très près. Et puis, si vous voulez dormir, en effet, comme on l'a dit aussi, il faut compter entre 130 et 150 euros par personne, par nuit, pour une nuit vraiment hors du commun.
Et pour manger, on peut faire ça sur place, Gavin?
Bien sûr, tout est prévu. Alors, vous allez partir dans une petite voiturette de golf, vous voyez, qui va vous emmener au resto du domaine de Crécy. C'est juste à côté, ça s'appelle le Panoramix pour le restaurant. Là, vous avez une cuisine vraiment très, très copieuse, très raffinée. C'est vraiment très bon. Il y a un brunch le dimanche midi et le petit-déj est vraiment extra. J'ai testé pour vous. Et c'est vraiment parfait.
C'est pénible, votre boulot.
Oui, c'est pas facile. Bref, c'est parfait pour un week-end en famille, entre amis.
C'est dur, il emmène ses gosses et vient. Papa, il est formidable, il bosse à la radio.
Je caresse les perroquets, ça impressionne les enfants.
Non, mais c'est assez rigolo, les perroquets,
mine
de rien.
J'ai adoré. Allez, faites-le.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Pour samedi en France, à ce moment de l'émission, nous allons visiter un site dit du patrimoine avec Gavin Clémenté-Ruiz du Guide du Routard. On vous propose alors une visite sacrée ou une sacrée visite, c'est comme vous voulez. Comme il y en a peu, nous allons où, Gavin, d'abord?
C'est ça, sacrée visite en effet. On va dans le pays de Montbéliard, William. Et je vous emmène plus précisément à Audincourt. Alors Audincourt, c'est pas très très loin de Belfort.
Montbéliard, c'est un des pays de la saucisse.
Oui. Ah oui, carrément, qui a eu d'ailleurs son IGP, son indication géographique protégé en 2013. C'est très bon, la saucisse de Montbéliard. Mais c'est un patrimoine un peu plus spirituel que je vous invite à visiter aujourd'hui.
Vous avez compris, alors on passe de la saucisse à l'église, ça n'a rien à voir. Mais les fidèles de l'émission, on a désormais, pourrait se dire, tiens, encore une église.
Mais celle-ci, elle ne ressemble pas aux autres églises. C'est pour ça que je l'ai choisie en même temps. C'est l'église du Sacré-Cœur à Audincourt et elle a vraiment tout d'une grande. Alors, quand vous allez arriver à Audincourt, devant l'église, vous allez vous dire, bon, d'extérieur, elle n'est pas super super, elle ne paie pas vraiment de mine. Mais cette église, elle a été construite selon un projet, j'ai envie de dire, simple et épuré, alors en pierre du terroir et en béton armé.
Ah, c'est contemporain, une architecture.
C'est assez massif. C'est un bâtiment central qui est flanqué d'un baptistère à gauche, d'un campanile à droite. Et au-dessus de l'entrée, il y a une belle mosaïque déjà. C'est comme ça que ça commence. Et c'est une œuvre de Jean Bazaine, très précisément.
Qui est Jean Bazaine?
Qui est connu à Paris pour la décoration de la station du métro Cluny-la-Sorbonne. C'est lui qui a fait la déco. Mais là, je vous invite à entrer dans l'église et c'est là que vous allez avoir une vraie surprise.
Donc c'est contemporain, ça veut dire qu'elle a été créée à quelle époque?
Elle a été bâtie par un prêtre bâtisseur, il s'appelle l'abbé Prenel, et ça a été construit entre 1949 et 1951.
Ah oui, quand même.
Donc c'est assez récent, avec tous ses fidèles.
Alors, vous parlez de surprise, pourquoi surprise?
Quand on rentre, on est complètement estomaqué, frappé, j'ai envie de dire, par les 17 vitraux qui ont été réalisés par Fernand Léger. Ils sont placés horizontalement sous la voûte, tout au long de la nef et du chœur.
Ah oui,
c'est vraiment spectaculaire.
On le voit, si vous voulez, parce qu'en principe, dans les églises, les vitraux sont partagés comme ça, de haut en bas. C'est plutôt des formes rectangulaires et elles se succèdent. Là, ça fait comme une espèce de bande.
C'est ça. Suit pendant
tout au long de l'église.
Jusqu'au cœur.
Alors, pour en savoir un petit peu plus sur ce bâtiment et ces fameux vitraux, nous sommes en ligne avec Edwige Dumel, qui fait partie de la commission de sauvegarde de l'église du Sacré-Cœur et qui guide régulièrement les visiteurs. Bonjour Edwige.
Bonjour.
Alors la commission de sauvegarde, ça veut dire qu'il faut la protéger, elle est menacée l'église, pourquoi sauvegarde?
Alors cette église a 70 ans, c'est une grande dame.
Ah oui.
Et donc on commence à voir quelques manifestations de vieillissement. Donc il faut savoir quand même que le béton des années 50 n'est pas le béton de maintenant.
Ah voilà.
Et que pour la sauvegarder, il faut l'entretenir.
C'est ça. Et le fait qu'il y ait des visiteurs, c'est pas plus mal. Ça vous permet de, une cagnotte pour pouvoir entretenir tout ça. Et vous avez raison, le béton de l'époque, c'est pas tout à fait le même. Alors, les vitraux de Fernand Léger dans cette église d'Audincourt, ce qui prouve qu'il n'était pas que peintre, il faisait aussi des vitraux. En quoi ceux-là sont-ils originaux? Alors, on a expliqué comment ils étaient situés, comme une sorte de bande qui court tout le long des murs. Mais qu'est-ce qu'il y a sur ces vitraux?
Alors, je vais revenir quand même un petit peu sur Fernand Léger, parce oui. qu'il faut quand même que je vous précise que Fernand Léger, quand il a construit cette œuvre, dessiné cette œuvre, il avait 69 ans. Mm-hmm. Donc, c'est une œuvre de la maturité.
Oui.
Qu'au départ, Fernand Léger était architecte de formation, mm-hmm. qu'il a beaucoup œuvré dans la peinture sur toile, mais aussi qu'il a associé architecture et peinture à même les murs. Fernand Léger s'était même investi dans le cinéma. C'est une époque où les artistes étaient vraiment ouverts à tout.
Oui.
Et Audincourt a été pour lui ses premiers vitraux. À 69 ans, ce sont ses premiers vitraux. Un vrai défi. 17 mais... vitraux sur 70 mètres de long.
C'est ça.
C'est une œuvre majeure.
C'est une œuvre énorme. Mais comment il a été contacté pour faire ça dans ce pays-là, Fernand Léger? Il était de la région, lui?
Alors, Fernand Léger est originaire de Normandie. Donc, il n'est pas du tout de la région. Par contre, il a un ami dominicain, Marie-Alain Couturier, qui a travaillé avec l'architecte Novarina pour la chapelle du Plateau d'Assy, qui est une grande œuvre connue aussi mondialement.
Mmh.
Et donc, c'est par ces relations que Marie-Alain Couturier lui a proposé cette œuvre en disant « une œuvre de grande taille ». C'est pour Fernand Léger. Il faut l'offrir à Fernand Léger.
Mais ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas d'autres ouvertures dans cette église. C'est-à-dire que toute la lumière vient du haut de l'église et c'est grâce à tous ces vitraux qu'elle peut être comme ça éclairée. Ça, c'est magnifique aussi. Pareil pour représenter la robe du Christ, l'artiste, il a pris quelques libertés, Fernand.
Alors, il y a les œuvres mêmes, et puis faites par Fernand Léger, et puis il y a les interprétations des différentes personnes qui passent. Alors, il y a un vitrail qu'on appelle le vitrail de la tunique.
Oui, le vitrail de la tunique.
Il y a un vitrail magnifiquement éclairé le soir à la lumière tombante,
oui.
dans les oranges, les verts. Qui est quelque chose de magnifique, mais l'interprétation par rapport à la chrétienté est une interprétation faite par les visiteurs. Il faut quand même savoir qu'il n'y a aucun écrit de Fernand Léger lui-même pour expliquer
ce qu'il a voulu faire.
Comment il a dessiné ses vitraux.
D'accord.
Pour lui, il disait, on n'a qu'une seule phrase qu'on a retrouvée dans les archives. Magnifier des objets sacrés, clous, ciboires, couronnes d'épines, traiter le drame du Christ, cela n'a pas été pour moi une évasion. Je désirais apporter un rythme évolutif des formes de couleurs pour tous, croyants et incroyants, quelque chose d'utile accepté par les uns et les autres. Du seul fait que la joie de la lumière se déverse dans le cœur de chacun.
Oui, bon, c'est pas un objet de culte, voilà. C'est en gros pour traduire, c'est quelque chose de, c'est l'œuvre d'un artiste et c'est son interprétation. Je la vois là, c'est magnifique et effectivement est extrêmement lumineux. Mais il a pas fait que des vitraux, hein. Il paraît qu'il a fait aussi la tapisserie. Qu'est-ce qu'elle représente, elle?
Effectivement, Fernand Léger a fait gratuitement dessin d'une très grande tapisserie qui entoure le fond de l'hôtel et qui reprend les dessins de la chrétienté. Le blé, les raisins, les poissons.
C'est ça. C'est immense, hein, c'est derrière l'hôtel. Bon, très bien. Et vous avez suffisamment de visiteurs qui vous permettent d'entretenir ce bel édifice, oui?
Plus il y aura de visiteurs, plus il y aura de gens heureux de découvrir ce havre de paix.
D'accord. Très bien. Merci pour la visite, Edwige. Je vous souhaite un bon après-midi.
Merci.
Merci.
Bonne journée à vous.
Bonne journée. Au revoir. Gavis, comment on fait pour aller là-bas?
Eh bien, alors, en ces temps de Covid, pour les visites de l'église à Audincourt, il faudra appeler Edwige directement. Je mets son téléphone sur europe1.fr ou bien vous pouvez aussi passer par l'office de tourisme de Montbéliard.
Alors, c'est unique, hein, je vous dis ça, parce que si on vous indique ce site-là qui est facile à visiter, c'est que vous ne retrouverez jamais ces vitraux-là ailleurs. Hein.
Cette interprétation.
Non, il n'y a que là qui soit aussi grand et qui tourne comme ça autour de l'église à l'intérieur. Hein. On est bien
vous
d'accord.
Vous avez aussi le numéro de Santina qui est sur la porte de l'église. Vous pouvez l'appeler directement si vous passez par là par hasard.
Bon, très bien. Pour dormir dans les environs, c'est possible?
Ah bah oui, j'ai toujours ça dans mon escarcelle. Ouais. Je vous propose les chambres d'hôtes La Rêverie. C'est beau. À deux pas du centre-ville de Montbéliard. Alors là, on est dans un très joli parc. Il y a un très beau cèdre du Liban bicentenaire. Bicentenaire. Mm-hmm. On continue sur la thématique artistique parce que là, vous allez voir, il y a la salle à manger avec sa belle demeure de charme qui a été réalisée par Majorel.
Majorel, celui qui est le bleu Majorel.
Ouais, le grand ébéniste Art Nouveau de Nancy lui-même. Ce sera dans cette chambre d'hôte La Rêverie. Les chambres sont tout aussi élégantes, confortables. À partir de 98 euros la nuit pour deux personnes.
Mais tout ça est sur le site europe1.fr si
entendu.
Vous souhaitez des précisions.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Dans la catégorie site du savoir-faire français, un lieu que l'on va vous proposer maintenant et qui est rarement offert dans les circuits touristiques traditionnels. Et c'est bien dommage, mais tant mieux pour nous, tant mieux pour vous. Avec le guide du Routard sous le bras, Gavins Clémenté-Ruiz nous emmène dans le département du Puy-de-Dôme. C'est en région Auvergne-Rhône-Alpes, et plus précisément où. Et qu'est-ce qu'on y fait là-bas?
Alors, William, nous allons aller à Volvic cette fois, et on ne sera pas très très loin de Clermont-Ferrand.
Alors, rien à voir avec le fait qu'on puisse boire de l'eau avec un nom pareil.
Non, bien tenté, mais ce n'est pas ça. On va aller faire un atelier de lave émaillée.
Alors, lave, oui, ça va. Émaillée, ça veut dire quoi tout ça?
Eh ben, en fait, on va aller peindre sur de la roche issue des volcans de cette région de Volvic.
Ah oui, donc nous sommes en Auvergne et on peut dire, oui, en Auvergne, là, les volcans, ils connaissent. Hein, ils ont même inventé le concept, non?
C'est justement ça qui est intéressant, William. Alors, la roche volcanique, a priori sombre, un peu rugueuse, pas très jolie aussi. Eh bien,
oui, c'est pas lisse. Hein,
non, c'est pas lisse du tout. Et elle craint. Alors, l'avantage, c'est qu'elle craint pas les hautes températures de cuisson, qui peuvent quand même monter jusqu'à 900 degrés. Et surtout, avec l'émail coloré, on peut dessiner dessus, on peut faire des formes, on peut laisser complètement libre cours à sa création.
Et on y va pour ça.
Eh ben on y va pour ça. Et d'accord. Ça permet le temps de travailler, le temps de se concentrer et dans cet atelier et au pinceau ou à la poire,
de
prendre le temps. Oui, à la poire. Selon la taille de la superficie de votre peinture émaillée, ouais. Eh bien vous utilisez soit le pinceau pour être dans le petit détail et la poire pour des surfaces un peu plus grandes.
La poire, c'est une poire comme en caoutchouc là.
Exactement.
Ou... Ah bon.
Exactement.
Bon, là vous faites un peu le malin là, pour m'impressionner. Bon, bah, c'est réussi là, parce que ça mérite quelques précisions, bien sûr. Et figurez-vous que ça tombe bien puisque nous sommes avec Colline Despinasse au téléphone. Bonjour Colline.
Bonjour.
Dites-moi, parlez-moi de votre atelier là. Alors, il porte des noms tout à fait intéressants. Il s'appelle Dynamique, est-ce que je prononce bien?
Oui, c'est ça.
Et Filouette, ça veut dire quoi Filouette?
Filouette, c'est plus mon nom d'artiste, en fait.
Ah, d'accord.
Alors que Dynamique, c'est vraiment la partie enseignement liée à l'apprentissage,
oui.
Et à faire soi-même la lave émaillée ou la peinture, etc.
Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que Dynamique, vous l'écrivez comment? Parce que c'est alors D-I-Y-N-A-M-I-K, c'est ça?
Donc D-I-Y, c'est pour l'acronyme de Do It Yourself. L'idée, c'est de venir chez moi, dans mon atelier, pour faire soi-même ses propres créations. Donc, c'est vraiment dans l'idée de... On crée soi-même, on utilise des techniques pour créer ses propres
lave. Oui, mais c'est pas banal de faire de la peinture sur de la lave, quoi. Et avec des ébaux. Vous avez une formation ça a toujours été comme... Ah bon?
D'accord. Alors, j'ai longtemps pratiqué en loisir. Et puis, un jour, je me suis dit, il faut que je me lance en tant que professionnelle. Mmh. Donc, j'ai suivi une formation de 4 mois à l'IMAPEC, qui est une école, la seule école au monde qui propose l'émaillage sur lave comme formation.
Et l'école Ah bon, on sort diplômé de l'école d'émaillage sur lave. C'est incroyable, ça. Et de quel volcan provient la pierre, on sait ça ?
Alors, il y a plusieurs volcans qui sont exploités. Le principal volcan, c'est le Puy d'Anugère, qui est à 5 minutes de Volvic, qui n'est pas forcément le volcan le plus connu, hein, parce qu'on connaît tous le Puy de Dôme. Mais voilà, c'est surtout celui-ci qui est exploité, parce que l'exploitation de la lave correspond à une coulée volcanique particulière.
Mais on les récupère comment, ces pierres ? Elles sont offertes à tout le monde, ou on tape dessus et on casse ?
Non,
je sais pas que...
Non, c'est réglementé. En plus, on est sur un site quand même protégé, puisque la chaîne des puits est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a des règles d'exploitation, donc il y a des permis qui sont donnés à certains exploitants, qui eux vont se charger uniquement d'exploiter la pierre et de l'extraire pour la construction.
D'accord, et ensuite c'est vous qui les récupérez ?
Voilà, moi je vais venir un peu en bout de chaîne récupérer les chutes de pierre, on va dire.
Ah, c'est ça. Alors maintenant, expliquez-nous ce que ceux qui nous écoutent vont faire dans cet atelier avec les mailles. Alors la pierre, je la vois, une pierre sombre, noire, un peu rugueuse effectivement, et les mailles. On dessine quoi et on fait comment ?
Alors la première étape, ça va être d'abord de l'engober, c'est-à-dire de reboucher les trous.
Oh.
Donc on va utiliser c'est une sorte d'enduit de rebouchage, mais qui a quasiment les mêmes propriétés que la pierre et qui va permettre d'avoir une surface bien lisse pour émailler. Parce que sinon, la pierre, elle reste quand même un peu poreuse et du coup, l'émail pourrait s'échapper pendant la cuisson dans tous les trous de la pierre.
Toutes les petites alvéoles, et oui, bien sûr.
Exactement.
Et ça s'appelle engobé. Ah bon ?
Oui, c'est une engobe.
Bon.
C'est le nom technique, mais il n'a pas forcément de...
Non, mais ça fait rien, engobé, ça me va. Donc on a maintenant, on a la pierre, quoi. La pierre, elle fait combien ? Vous prenez des pierres, vous les avez taillées, elles sont carrées, elles sont rondes, elles sont quoi ?
Alors, pour les initiations, je propose en général des pierres de 10 par 10 cm. En 2 heures, c'est déjà bien. C'est pas très grand, mais il y a pas mal de travail, en fait.
D'accord. On a
c'est
une
suffisant
pierre...
et ça passe très vite, 2 heures.
On a une pierre lisse, elle est noire. Et qu'est-ce que je mets dessus ?
Donc, elle est engobée et ensuite, on va utiliser des émaux. Alors, les émaux, c'est un peu la consistance d'une pâte à crêpes, globalement. Donc, c'est quand même assez liquide. Du coup, ça ne s'applique pas tout à fait comme de la peinture. On va venir remplir, en fait, des espaces qu'on aura préalablement cloisonnés avec un crayon.
Mm-hmm.
Donc, en général, on utilise un crayon gras, tout simplement.
Ouais.
Et on dessine, en fait, les grandes...
Et après, on remplit dans l'espace.
Les grands espaces. Ah, oui. Et on remplit les espaces avec les couleurs qu'on a choisies. Donc, chacun peut choisir son dessin.
Ah, voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord.
Exactement.
Bon, une fois qu'on a fait ça, vous donnez des conseils pour les formes, les motifs, ou chacun se débrouille ?
Oui, bien sûr, c'est complètement guidé, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire en initiation et d'autres qui sont un petit peu plus du domaine du perfectionnement. Donc,
d'accord.
Du coup, là,
vous pouvez accueillir combien d'élèves, si j'ose dire ?
Alors, comme l'atelier se fait en général chez moi, Oui, dans mon atelier, vraiment à domicile. C'est une immersion au cœur de l'atelier. Et du coup, en général, j'accueille 4 personnes maximum.
D'accord.
Je veux rester dans des petits groupes pour que ce soit plus personnalisé.
Intime. Personnalisé et intime. Après, il faut cuire tout ça dans les fours, je suppose.
Oui.
Bon.
Donc, la première cuisson, donc celle de l'engobe, elle se fait à 980 degrés, qui est considérée quand même comme des basses températures dans les lignes du feu. Et ensuite, les émaux sont cuits à 960 degrés.
Bon, quand ça sort, quand c'est cuit, à quoi ça peut servir, ça ? Soit vous les mettez au mur, soit ça peut servir de dessous de plat, je ne sais pas. Non, moi je dis ça, mais il y a peut-être...
Oui, bien sûr. La lave émaillée, elle sert notamment aux arts de la table, mais elle peut être aussi utilisée en extérieur. Elle est très résistante, en fait, à tous les écarts de température, au chaud et au gel.
Oui.
Elle supporte les rayures, elle supporte tous les produits d'entretien, les acides, etc.
Oui. On peut mettre ça sur mur, à l'extérieur, alors ?
Complètement, oui. Du coup, ici, c'est assez courant de trouver des numéros de rue en lave émaillée de Volvic.
Ah.
Donc, c'est vraiment utilisé. Même les plaques d'entreprise, etc. C'est souvent fait des tables d'orientation, etc.
Oui, je comprends. Et quand on a fait ça, on repart avec sa plaque, je suppose. C'est comme ça ?
Alors, on repart pas tout de suite.
Ah bon ?
Parce qu'il faut être un peu patient et attendre la cuisson. Parce que la cuisson, elle dure... Le cycle total d'une cuisson, c'est entre 21h et 24h.
Oh là.
Le temps de refroidir, etc. Donc, du coup, en général, il faut patienter un petit peu et revenir à l'atelier pour chercher
Le lendemain.
Son œuvre. Alors, le lendemain ou sur le lendemain, ça dépend de l'heure de l'atelier
et
du moment où j'ai mis la cuisson.
Justement. Alors, on va demander à Gavin ce qu'on fait en attendant. Parfait, merci beaucoup, Colline, pour toutes ces précisions. Je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de...
Merci, et beaucoup de
clients ou élèves, je ne sais pas comment vous les appelez. Enfin, vos
les
amis.
Élèves.
Vos élèves, voilà. Merci beaucoup.
Alors, merci à vous.
Gavin, on a bien entendu, donc il faut revenir chercher son œuvre.
C'est ça.
Le lendemain. Donc, on va dormir dans le coin, non ?
On va... Déjà, il faut payer l'atelier.
Alors,
35 euros, l'atelier par personne. C'est le lundi et le samedi, entre 10h et 12h.
C'est pas hors de prix, ça va.
Ça va, c'est toute l'année. Je mets bien sûr les informations sur europe1.fr. Et puis, vous pourrez, en attendant, en effet, vous promener dans la région. Vous pourrez aller peut-être manger. Je vous propose une adresse, une institution, que dis-je. C'est l'escargot qui tête. C'est à Vichy.
L'escargot qui tête.
C'est la maison de l'escargot, tout simplement.
Il se passe des trucs bizarres, hein, à Volvic. On engobe.
Et on mange les escargots tête. Est-ce qu'on engobe Bref. Donc, 28 euros le menu à l'escargot qui tête. C'est une adresse quand même qui existe depuis 1932. Vous avez le clafoutis d'escargot de Bourgogne, par exemple, que je vous ai noté, avec chanterelle à l'ail et compoté d'échalotes au vin rouge. Ça vous dit 18,50.
Ah, ça dégage, là, je suppose, quand on sort de table.
Bon, bien sûr, si vous voulez, il y a aussi les viandes charolaises. On va pas y passer. C'est sympa, c'est bon. C'est l'escargot qui tête, c'est à Vichy.
Tiens, à propos de Vichy, on en a parlé une seule fois, mais ça mérite, puisque vous attendez 24 heures avant de retourner chercher votre œuvre, de visiter Vichy, parce que c'est spécial.
Avec l'un des plus beaux opéras de France, qui était longtemps avant la construction de l'Opéra Garnier à Paris, le plus bel opéra de France, donc profitez-en.
Signé Garnier aussi.
Garnier aussi, je crois.
Je ne veux pas
dire de bêtises. C'était au début de l'année, ça commence à dater maintenant.
Bon, merci beaucoup Gabi. Je vous propose maintenant, madame, monsieur, d'écouter les souvenirs d'une personnalité qui a fait sa place désormais dans le monde de l'humour, sur scène. Il s'appelle Jarry. Et il a grandi dans un petit coin de France, un petit coin du Maine-et-Loire, pas loin d'Angers. Et il va expliquer à Daniel Moreau pourquoi il aime tant cet endroit.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Jarry.
Bonjour.
Parlez-moi de ce petit village de Rablais-sur-Layon où vous avez grandi dans le Maine-et-Loire, je crois.
Et tout autour de mon village, il y avait ce qu'on appelle les coteaux du Layon. C'est des petites collines avec des vignes au-dessus. Il y a du blanc, du rouge, du rosé. C'est vraiment toute mon enfance. Je suis vraiment né au cœur des vignobles. Petit garçon, j'étais très introverti. C'était plutôt le petit garçon qui s'amusait dans sa chambre et qui regardait par la fenêtre. J'étais pas trop bricoleur, j'étais pas trop aventurier. Puis il y avait plein de bêtes dans les forêts et dans les vignes. Alors je n'y allais pas trop. Non, je passais mon temps à lire, à chanter, à danser dans ma chambre. Voilà, je rêvais déjà de spectacles.
Est-ce que vous restez attaché à cette région de la France de votre enfance ?
C'est exactement ce que je dis dans mon spectacle. Il ne faut jamais oublier l'endroit où l'on a grandi. Parce que c'est souvent là qu'on a appris les valeurs qui nous sont chères quand on est adulte. Moi, j'y ai appris vraiment l'indépendance, le travail très tôt. J'ai appris une éducation assez stricte. C'est-à-dire qu'il fallait se lever tôt le matin, aller travailler... Et c'est des choses auxquelles je suis très attaché. Dès que j'ai besoin de me ressourcer, j'aime aller boire un verre de Coteau du Layon et puis marcher des heures et des heures dans les vignes. C'est fabuleux.
Ce village est près d'Angers qui vient d'être élu la ville de France où il fait bon vivre. Est-ce que vous pouvez nous servir de guide si on a la chance d'aller dans cette belle région ?
Alors, le château d'Angers, déjà, il faut absolument le découvrir avec les tapisseries de l'Apocalypse, qui sont quand même un trésor national. Mmh. Après, on peut s'éloigner en allant se promener sur les bords de la Loire. Il y a plein de petites plages où on peut être tranquille. Après, il faut goûter les spécialités locales. Il faut goûter les bautreaux, qui sont comme des petits beignets qu'on fait cuire dans de la graisse fondue de porc. Donc, c'est un peu calorique, mais c'est extrêmement bon. Ce que je disais, un bon verre de Coteau du Layon, qui est vraiment le vin de la région, qui est un vin un peu sucré. Donc, on peut manger avec du foie gras ou avec un dessert.
Bon, après, il faut faire un petit footing pour digérer tout ça. La France, vous allez la parcourir, puisque vous avez commencé une tournée avec votre nouveau spectacle Jarry Titre. Et le public sort enchanté et enchanté, en deux mots, puisque c'est un spectacle très musical. Expliquez-nous.
Oui, j'ai voulu que les gens puissent avoir une aventure commune et j'ai décidé de faire chanter les gens. Souvent, quand on voyage, quand on va à l'étranger, ce qui nous réunit, quand on parle pas la langue, c'est souvent les soirées au coin du feu à chanter ensemble. Et du coup, j'ai voulu reproduire ça autour de l'humour. C'est-à-dire qu'on puisse rigoler tous ensemble et puis de faire des bêtises en chantant deux, trois chansons. Et surtout, là, ça va être la première fois pour moi, la tournée des Zéniths de France. Ça fait maintenant 9 ans que je fais ce métier et j'aurais jamais évidemment imaginé me retrouver dans les plus grandes salles de France pour aller faire rire les gens et aller à leur rencontre. Donc c'est beaucoup d'émotions pour moi en ce moment.
Beaucoup d'émotions, il y en a toujours avec vous, mais il y a beaucoup de rire dans votre spectacle et ça fait du bien. Merci de nous avoir fait voyager sur les traces de votre enfance.
Merci à vous et embrassez tous les auditeurs et j'embrasse votre maman aussi.
Et oui, parce que Daniel Moreau, elle est maman, que tous ses amis connaissent bien, puisqu'elle se déplace quand elle va au spectacle avec sa maman, donc que les artistes la connaissent. Merci beaucoup Daniel, merci. J'arrive, vous rendez compte, ce jeune homme-là, il fait les Zéniths de France, ça n'est pas rien. Tout seul, vous avez des scènes qui font 25 mètres de long sur 15 mètres de large. Hein. Bon, alors, vous allez le retrouver un peu partout. Il passera d'ailleurs par la région parisienne au mois de mars.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Toutes les semaines, on vous fait prendre dans cette émission sur Europe 1, on vous fait prendre l'air, tout simplement, sur un site qui mérite un coup d'œil. Et là, c'est plus vrai que jamais. Avec Gavin Clémenté-Ruiz, expert de site au Guide du Routard. Vous avez un diplôme d'expert de site.
Expert de site qui décoiffe.
À qui décoiffe, oui.
Je le prouve
aujourd'hui. Là, c'est le cas. On va vous emmener à la Colmiane. Alors, vous ne connaissez peut-être pas la Colmiane, ça se trouve où ?
Eh bien, ça se trouve dans le département des Alpes-Maritimes. On est au cœur de la Suisse niçoise.
La Suisse niçoise, ça s'appelle comme ça ?
Oui, c'est l'appellation locale. On est à moins d'une centaine de kilomètres au nord de Nice. Alors, on va prendre un télésiège, William. Mm-hmm. On va s'installer, on va avoir la montagne et face à nous, et surtout l'immensité, la beauté du massif du Mercantour.
Quand on monte par le télésiège, ça prend, vous savez à peu près combien de temps, on monte à combien ?
Eh bien, on va arriver à 1776 mètres d'altitude. Et
ah
là,
oui.
Vous allez vraiment comprendre que vous êtes très, 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 très haut.
Ah ben ça monte très haut, votre affaire, là. Et une fois qu'on est là-haut, on s'installe, enfin, on vous installe sur la tyrolienne.
Et c'est là que
vous allez... rappelez-nous ce que c'est.
La tyrolienne, avant, on disait « à la tyrolienne », c'était l'expression qui signifiait qu'on passait d'une montagne à l'autre avec une corde qu'on lançait de l'autre côté de la montagne et on descendait par cette corde au-dessus de la vallée pour faire descendre des matériaux, des denrées, etc. Et c'était juste un filin tendu entre deux montagnes, en fait. Et puis, c'était assez rustique. Maintenant, c'est beaucoup plus sécurisé, je vous rassure. Et c'est le même principe. On va descendre ce filin qui relie deux montagnes et alors, qui passe au-dessus de la vallée. Et c'est ce qu'on va faire à la Colmiane.
Alors, quand vous dites ça, on va faire ça à la Colmiane, Tyrolienne, bon, ça va.
Tranquille.
Mais quand on regarde la photo de très loin, comme celle que j'ai sous les yeux, mais la pente est terrible.
Eh oui, vous allez voir, ça descend. Ça se fait en deux parties. Hein. Il y a une première partie, la pente à 13,5%, 250 mètres de dénivelé. Puis la deuxième partie, on est à 6,5%. Bref, ça descend pas mal.
Non, évidemment qu'on est bien accroché, évidemment qu'on est bien couvert, mais quand même, il ne faut pas avoir le vertige, quoi.
Non, puis il ne faut pas avoir peur du vide. Alors, sinon, vous fermez les yeux, mais ça serait dommage, parce que vous allez être au-dessus d'un des plus beaux paysages de France.
Voilà, parce qu'on est quand même tranquille quand on est là, on est correctement attaché. Bon, alors, pour nous en dire un petit peu plus quand même, nous avons en ligne Yannick Garin, qui est le directeur de la station de la Colmiane et de l'ESF. Bonjour Yannick.
Bonjour à vous, messieurs.
Dites-nous tout alors. Est-ce qu'on est un petit peu préparé quand on nous installe sur la Tyrolienne pour traverser la vallée ?
Oui, mais comme vous avez dit dans vos propos au départ, on vous prépare, vous êtes accueillis, nous avons des opérateurs évidemment au départ,
ouais.
qui vous mettent un harnais, qui vous préparent, qui vous conditionnent. On est obligé par sécurité, c'est vrai que des fois c'est pas très agréable, mais de vous repeser pour savoir le poids, puisqu'on est limité en poids.
Ouais.
Mais voilà, il n'y a pas trop le choix, puisqu'on est limité à mon maximum 150 kilos pour deux.
Ça va.
Comment
ça pour deux ?
On peut le faire en duo aussi. C'est solo ou duo. Ouais.
Oh. Ah, c'est bien.
Donc,
ça.
Voilà, à partir de 8 ans,
ouais.
Voilà, on peut faire avec, avec un ado un peu plus grand, 15-16 ans, ou papa, ou maman, ou tonton, ou tata.
Dites-moi Yannick, on est assis sur quoi ? C'est une selle ? C'est un fauteuil ? C'est quoi ? Une chaise ?
Alors non. Pas du tout, aucun de tout ça. On est accroché, en fait, on vous accroche dans le dos et en fait, vous planez. Vous êtes à plat ventre. Donc, vous allez tête en avant, comme un oiseau. En fait, vous avez cette sensation magnifique de voler. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ben, on est quand même dans le cœur du Mercantour, là où il y a toutes les balades de l'été, puisque c'est une tyrolienne qui est ouverte sur la station de ski, en tout cas à l'hiver. Donc, on passe au-dessus des pistes de ski. Et l'été, on a une grosse activité de loisirs aussi, puisqu'on a l'acrobranche, la luge, etc., mais la tyrolienne. Et on a ce paysage du Mercantour en face de nous. Et tout à l'heure, vous le disiez, on a le Gélas, hein, qui est le plus haut sommet des Alpes-Maritimes, qui est chez nous, qui est à 3143 mètres, et vous avez tout ce paysage du Mercantour.
Ah oui, on est à plat ventre, quoi. On descend comme une fusée, quoi.
Alors, je vais dire comme un oiseau, plus sensation de planer, de voler.
Oui, moi je voyais ça comme une torpille, là, parce que la tête devant, évidemment, on a un casque.
Mais on est profilé, hein. On vous demande d'ailleurs de garder les bras le long du corps. Bien évidemment.
Ah, on a les bras le long du corps.
Donc ça peut faire fuser, je suis d'accord. Ça peut.
on a une combinaison, oui, non, oui.
Non, on est habillé. Ben, évidemment, l'hiver, pendant la période d'hiver, ben, le ski, évidemment, il faut qu'on soit habillé comme il faut en montagne. Bon, ben, l'été, la montagne, des fois, il peut faire très chaud, des fois, il peut faire plus frais, mais on est plus décontracté l'été. Mais c'est vrai que l'hiver, on est plus en habit de ski.
Alors, vous imaginez bien, la question que je vais vous poser maintenant, c'est celle que se posent nos auditeurs, en disant, ben oui, mais on est là à plat ventre, on descend. Il nous a expliqué, l'autre, là, l'animateur, que c'était très, très, très en pente. Ça veut dire qu'on descend à combien, là, à quelle vitesse?
Alors, ça va entre 120 et 130 km/h. Ouais. Alors, c'est une très belle sensation.
Ah bah, oh, là, la fusée, là, on y est, là, c'est la torpille, là, c'est le lance-pierre. Hein. Hop là.
Alors, il y a un avantage. C'est que c'est vrai, quand on dit comme ça, ça peut un petit peu impressionner, mais comme on est haut, parce qu'on passe jusqu'à 110 mètres de hauteur, alors un peu plus, avec ce câble, et en fait, on ne ressent pas totalement cette vitesse, cette rapidité, parce qu'on a ce panorama. On est très haut et du coup, on adore ce visuel et on passe entre des arbres à des moments. Donc voilà, il y a cette sensation de vitesse, mais après, ça prend le dessus, le panorama, en fait.
Redites-moi ça, Yannick.
Je ne sens pas rassuré tout d'un coup,
William. On passe entre des
arbres. Je ne vous ai pas convaincu.
Non, si. Ah non, le coup de la tyrolienne, moi, sur le principe, j'adore. Mais les arbres, ils sont très espacés.
En fait, sur l'arrivée, puisqu'on descend et on arrive à une gare intermédiaire, ben, automatiquement, on n'est plus à 110 mètres de hauteur. Donc, à un moment, à un endroit, sur cette arrivée-là, il y avait une trouée naturelle et puis la tyrolienne passe à 30 mètres au-dessus. On a l'impression de passer au milieu des arbres. On a l'impression, voilà. Alors, je ne suis peut-être pas l'exprimé.
Non, mais c'est moi qui n'ai pas tout bien compris. Ça se fait d'une traite ou pas? Non.
Alors, elle se fait en deux fois.
D'accord.
On a presque 1,9 km, presque 2 km sur la première, en tout cas intermédiaire. Mm-hmm. On arrive, on a une arrivée, qui est impressionnante aussi l'arrivée, hein, puisqu'on arrive, je vous laisse imaginer, à plus de 100. Hein. Donc, l'arrivée, l'arrêt se fait sur des freins hydrauliques qui permettent en tout cas de s'arrêter sur une longueur.
Bien sûr, il y a des freins. Ah bah oui,
voilà,
il y a des freins.
Oui, il vaut mieux.
Non, mais excusez-moi, il faut que j'explique à Gavin, c'est pas une cible en bas. Et lui, il n'est pas chargé de rentrer dans la cible.
Non, mais j'ai hâte que vous soyez chatouillé par les arbres.
Mais ce n'est pas une fléchette.
et derrière, donc, on vous déséquilibre, on vous décroche, et vous repartez sur une autre, qui est là aussi beaucoup plus visuelle, parce qu'on passe sur deux lacs. Au-dessus, c'est les retenues collinaires qui nous servent de faire de la neige de culture. C'est très, très joli. On a beaucoup de personnes qui aiment bien aussi la deuxième partie, qui est moins rapide, mais qui est très, au niveau panorama, très joli.
Yannick, pour faire la première partie, ça dure combien de temps et la deuxième dure combien de temps également?
Oh, ça va vite, ça va vite. Hein. On va dire que la première partie, en deux minutes, même pas, elle est faite. Et la deuxième, pareil, en tout, c'est 3-4 minutes. Hein.
Bon, alors, moi, si je vais là-bas, et d'autres, à mon avis, pensent la même chose. C'est assez marrant de faire ça, mais ça ne dure pas très longtemps. Est-ce que je peux remonter pour me refaire encore un petit coup?
Ah ben, ça, c'est quand vous voulez. Hein. Ça se fait sur réservation, la tyrolienne.
Ouais.
Parce qu'on a des créneaux.
Ah, ça m'a plu. Et hop, on reprend le tire-fesse ou le je ne sais pas comment... Le télésiège, et on redescend. On peut le faire, ça.
Vous pouvez le faire si vous reprenez une place.
Oui, bien sûr. Oui, non, mais j'ai compris. Yannick, il dit il ne veut pas payer l'autre. Non. Si.
Par contre, il va payer sa place. Excusez-moi. Je me permets. J'ai bien entendu. Si vous décidez de venir, donc ça veut dire que je serais heureux de vous accueillir.
Ah ben vous êtes très aimable, et surtout on va essayer de convaincre des... Non, parce que c'est une tyrolienne de cette taille-là, il n'y en a pas...
Vous voulez pas qu'on fasse en duo, William?
Ben ouais, tiens.
Ça va être sympa.
Ouais. Non, ça a l'air très très marrant.
On va faire le duo de là-haut.
Merci, merci beaucoup. Merci Yannick, et bravo pour cette installation qui est vraiment spectaculaire.
Merci à vous.
Je vous souhaite un bon après-midi, au revoir.
Au revoir.
Alors, Gavin, combien ça coûte cette balade ? Que je puisse payer mon ticket deux fois si nécessaire ?
Attention quand même, c'est 35 euros le billet.
Bon, bah oui,
descente,
mais c'est
minutes.
Pas banal, on fait pas ça tous
on
les
ans. On a compris que c'était vraiment quelque chose d'assez unique. C'est à partir de 8 ans, hein, n'oublions pas. Mmh. On peut y aller en duo si on veut avec les enfants, c'est sympa. C'est ouvert toute l'année. Alors, pour les enfants de 8 à 11 ans et de plus de 30 kilos, ils sont donc admis avec un adulte. Sinon, c'est en solo pour les plus de 12 ans et plus de 35 kilos.
Bon, alors, une adresse pour manger une fois qu'on est arrivé en bas, si tout va bien.
Et si on n'a pas mal au cœur, en effet. On va aller à Saint-Martin-Vésubie. Alors là, je vous conseille, c'est la Bonne Auberge. C'est ouvert de mi-février à mi-novembre. Donc, on va pouvoir y aller tranquillement. Le resto est ouvert tous les jours,
okay.
sauf le dimanche soir. Ça coûte 28-35 euros pour le menu. Et sinon, vous avez aussi ils font aussi hôtel, si vous voulez rester dans le coin, pour aller vous balader le lendemain et refaire peut-être la tyrolienne, si vous le souhaitez, mon cher William.
Oui, pourquoi ? Non, mais c'est
un peu
court.
J'ai bien compris que vous ne vouliez pas le faire qu'une fois.
Non, vous êtes d'accord, c'est un peu court, c'est bien de recommencer.
Ouais, c'est ouais. pas mal.
Bon. À part ça, on va terminer avec un récapitulatif de ce que l'on vous a présenté ce samedi. Allons-y.
Alors, pour commencer, nous avons dormi avec des perroquets. C'était en Seine-et-Marne, à Perrot World. C'est la plus grande volière de France, non loin de Paris. Ensuite, nous avons visité une église décorée par Fernand Léger lui-même, pas loin de Montbéliard.
Et ensuite... Spectaculaire, cette église.
Là. Ouais, c'est très très beau. Et ensuite, à Volvic, dans le Puy-de-Dôme, nous avons appris, oui, à émailler la pierre de lave. On a peint notre petit carreau, c'était très joli.
Je oui, petit carreau qu'on peut mettre, vous en servez pour mettre des objets dessus, sur la table.
Vous avez fait des progrès en dessin d'ailleurs.
Et sur des murs à l'extérieur, hein, ça marche aussi.
Et là, on vient de traverser le Mercantour à presque 2000 mètres d'altitude en tyrolienne. C'était à la Colmiane, dans les Alpes-Maritimes.
Alors, pour terminer, comme d'habitude, un livre qui parle de la France, précisément.
Ouais. Oui, cette semaine, j'ai retenu le livre d'Agathe Portail, qui s'intitule De la même veine, c'est chez Calman Lévy. Vie dans la collection Territoire. C'est une histoire familiale, pleine de passion, de ferveur dans le milieu de la tonnellerie. De la tonnellerie,
et
oui.
Quelle région ?
Et ben dans la région de Bordeaux, bien oui. entendu. C'est une histoire policière sur fond de terroir. J'ai beaucoup aimé.
L'émission est à présent terminée. Merci à Marie Jacquet, Christophe Pierrot, Daniel Moreau, Gavins, donc Clément Pérusse et Morgane Biquillet. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain à 15h pour partir à la découverte de 4 nouveaux sites, toujours en France, dans 4 régions différentes. Bon après-midi sur Europe 1.